Mon père, il y a une pléthore de questions qui se posent suite au dernier cours.
Oui.
Et la première question un peu récapitulative de tout ce que nous avons vu jusqu'à l'heure actuelle. Et Loffray demande comment distinguer et situer la personne humaine au niveau métaphysique du plan éthique. Quand vous distinguez tout au long de votre analyse la personne par rapport à ses actes et enfin, ce qu'est un acte personnel.
L'acte peut être considéré métaphysiquement et psychologiquement.
Oui. Il semble que vous regardez la personne dans son agir plutôt qu'au niveau de l'être, en considérant l'acte. Comment pouvons-nous préciser un acte personnel d'un acte moral ?
Un acte moral et un acte personnel, tous les deux sont... L'acte moral est toujours personnel. Il n'y a pas d'acte moral qui ne soit pas personnel. Mais le point de vue moral peut s'entendre au point de vue de la finalité comme au point de vue des moyens. Alors, du côté de la finalité, métaphysique. Du côté des moyens, psychologiques.
Est-ce que vous pouvez développer un peu?
Je comprends très bien que ce soit très délicat. La preuve, c'est qu'au fond, on ne l'a jamais traité. C'est bien simple. On considère tout simplement que ce point de vue-là, c'est un point de vue psychologique ou un point de vue vital, ce point de vue. Bon. C'est très simple, c'est réglé. Alors, vous voyez, si on fait ça, il comprend personne et nature, qui est une distinction. Est-ce qu'elle est en métaphysique, cette distinction de la personne et la nature ? Ou est-ce qu'elle n'est pas en métaphysique? Je crois que c'est une distinction métaphysique. Tout le monde reconnaît que la substance, le propre de la substance, c'est de subsister. Alors, qu'est-ce que c'est que la subsistance? Si ce n'est un mode d'être particulier de la substance. Elle subsiste, c'est-à-dire elle existe par soi, par elle-même. Elle n'a pas besoin d'un autre pour exister. Donc, ne pas avoir besoin d'un autre pour exister, c'est bien rester toujours au niveau métaphysique. Et toute la personne est au niveau subsistance. J'ai essayé d'étudier ce qu'il y a de propre dans un être intellectuel et volontaire qui subsiste par elle-même. Oui. Alors, cette réalité qui subsiste par elle-même est une personne. Ce n'est pas autre chose que ça. C'est une personne. Si vous subsistez par un autre, vous n'êtes pas une personne, vous êtes une partie. La personne est un tout. Et elle subsiste en elle-même. Et elle subsiste en elle-même par sa finalité. Alors, cette possibilité de subsister par soi. Vous voyez ? Alors, c'est peut-être le point de vue de la subsistance que je n'ai pas suffisamment montré pour qu'on voit bien ce que c'est. La substance subsiste. Et si j'étudie qu'est-ce que c'est que cette substance, elle implique l'intelligence. Il n'y a pas de manière, il n'y a pas de subsistance sans intelligence. Et implique l'amour au point de départ, volontaire. Oui. Je ne les prends pas au niveau des moyens, mais au niveau de leur racine, de leur source, de leur principe. Autre chose, et regarder la substance comme principe, et regarder la substance comme manière d'être. Oui. Elle subsiste. Subsister, c'est une manière d'être. Qu'est-ce que c'est que subsister? C'est exister par soi. Ben, c'est une manière d'être. C'est la manière propre de la substance d'exister. Elle existe par soi. La personne, elle existe par soi. Si vous existez toujours en fonction d'un autre, vous existez par exemple en fonction de ce que tout le monde dit. Tout le monde dit ça aujourd'hui. Moi, je suis là. Et je vais me dire, tiens, tout le monde le dit donc, il faut le faire. Si j'agis comme ça, est-ce que j'agis personnellement? Non. J'agis en fonction des autres. Et il s'agit de montrer qu'est-ce que c'est qu'agir personnellement. Agir personnellement, c'est justement avoir soi-même la finalité vers laquelle je travaille. Donc ça touche la finalité et que la morale, au contraire, regarde le point de vue des moyens. Oui. Je regarde quelque chose qui est beaucoup plus enraciné. Mais je sais, je comprends très bien, ça je comprends, j'ai hésité pendant 10 ans. Ce n'est que ici récemment que je me dis, il faut quand même mettre la personne au plan métaphysique. J'attribue à Dieu. Mais si je l'attribue à Dieu, c'est pas Dieu, c'est métaphysique. C'est qu'est-ce que ça représente exactement de subsister? Je subsiste dans mon être, moi. Et cette subsistance dans mon être se répercute à travers toutes mes activités. Et toutes mes activités sont ou ab alio, je suis dépendant des autres. Aujourd'hui, on est tellement dépendant des autres qu'on n'arrive plus à poser un acte personnel. Personnel qui dépend de moi. Je me suis engagé, moi, seul. Oui. Et peut-être par le point de vue de la subsistance, puisque la subsistance est quelque chose que nous comprenons, au point de vue métaphysique, c'est par le point de vue de la subsistance que je vois le point de vue. Pour une personne raisonnable, intelligente, le fait d'exister par soi, c'est personnel. Alors, comme vous dites, la différence entre morale et personnel, le point de vue moral regardera la responsabilité que j'ai. Je suis responsable. Mais pourquoi suis-je responsable? C'est parce que j'agis par moi-même. Donc, c'est l'explication de la responsabilité. Alors, les deux se tiennent dans la réalité. Mais il y a quelque chose qui explique la responsabilité de quelqu'un. C'est qu'il agit pour lui-même, par lui-même. Je crois que vous pouvez y arriver par le point de vue de la subsistance. Et puis, essayez vous-même de vous dire, parce que dites-vous bien que la scolastique n'a absolument pas traité la question du pos. Elle n'a traité que la question des principes. Alors, n'ayant pas du tout traité la question du pos, elle laisse un trou énorme à la psychologie qui traite du pos. En disant, le pos, oh, mais c'est la psychologie, ça. Ah non, ça dépend à quel niveau. Si vous essayez d'étudier ce pos au niveau de son activité d'être, donc la subsistance, vous êtes en face de la personne. Et c'est ça qu'il faut réfléchir. Évidemment, ça s'est ténu et ça n'a pas été étudié du tout. Je sais très bien qu'en mettant la personne, en étudiant la personne en métaphysique, je vais soulever des tas d'objectants. D'une quantité. Je ne sais pas combien il y en a qui va comprendre ça, qui ont le permis de notre psychologie.
Alors. Mais Père, comment est-ce qu'on peut distinguer la subsistance au niveau métaphysique de l'autonomie au niveau psychologique? Parce que dans notre agir, ce n'est pas toujours évident.
C'est au niveau de l'être. Un être subsiste par lui-même. Oh, c'est. La subsistance, c'est d'exister par soi. Votre substance, elle existe par soi. Tandis que votre poids n'existe pas par soi. Il existe en fonction de votre. Tandis que subsistance, c'est comme ça que les scolastiques définissent la subsistance. Exister par soi. Exister par soi, c'est bien la substance. Hein. Mais ce n'est pas la substance regardée comme principe, mais c'est regarder la substance comme manière d'exister. Elle existe par elle-même. Alors, c'est justement le propre de la personne, c'est d'exister par soi. Alors, on a étudié la subsistance et on n'a pas vu que la personne, mais c'était justement d'exister par soi. Il me semble, hein. Je suis en recherche, n'oubliez pas, c'est pour ça que ça m'intéresse aux objections, je suis en recherche. Et je veux essayer de préciser le plus possible que ça devienne évident. La différence entre le principe, comme la substance, elle est principe. Et ce principe, il subsiste par soi.
Il y a une seconde question.
Oui.
Vous avez parlé de l'ouverture de la personne humaine à la vie commune à travers l'activité volontaire. Il y a quelques années, vous rattachiez la dimension politique à la prudence, au sens où cette vertu permet la bonne gouvernance, la coopération pour la sauvegarde du bien commun et l'orientation de chaque citoyen vers la félicité. Par le corps également, la personne fait partie d'une communauté car elle en est une partie. Quel est l'ordre entre ces diverses approches, à savoir la volonté, la prudence et le corps? Comment pouvons-nous les situer dans la philosophie de la personne? L'activité politique est-elle une dimension à part entière de la personne humaine?
Bon. Quand vous n'avez pas, vous disiez avant, je suis situé.
Avant, vous situez la personne humaine par. Enfin, une approche par rapport à la prudence, au sens où la prudence permet la bonne gouvernance, la sauvegarde du bien commun et l'orientation vers la concorde ou la félicité commune.
C'est le bien de tous. Donc, ce n'est pas une finalité. C'est encore une manière d'être. Je cherche la fin en étant lié aux autres. On est plusieurs. On forme un groupe. Il y a une unité de groupe qui s'est formée avant. Et cette unité de groupe a une certaine activité propre. Dans la mesure où et je peux essayer de voir le bien commun de l'homme. Le bien commun de l'homme, où ça se situe? Est-ce que ça se situe du côté personnel ou du côté naturel? Le côté bien commun se situe du côté naturel. Il n'y a pas de bien commun personnel. Réfléchissez, n'est-ce pas, quand on. Vous avez en propre un stylo et qu'à côté de vous, il l'a oublié. Il voit ce beau stylo, il dit au bout, il fait beaucoup mieux dans ma poche que là, dans la poche du voisin. Donc, je jippe. Bien commun. Stylo, c'est bien commun. On n'a qu'à l'acheter, quoi. Il n'a rien de par personnel. Il relève la nature humaine. La vache n'aura pas cette concupiscence de vous acheter ce stylo. Elle ne sait pas ce que ça veut dire. Tandis que le voisin, il sait très bien ce que ça veut dire. Ça regarde la nature. Alors, la nature. C'est à cause que nous avons même nature qu'il y a un bien commun. Et la nature. Et le point de vue personnel dépasse le point de vue commun. Est unique. Et alors, je vois comment le point de vue politique regarde avant tout le point de vue nature. C'est parce que j'ai la nature humaine qui a un bien commun. Et que nous avons tous la nature humaine qui a un bien commun. Mais au-delà de ce bien commun, il y a un bien personnel. Alors, les personnes se situent-elles du côté du bien commun ou du côté du bien personnel? Posez-vous la question. Personne ne sait tout au-delà du bien commun. Alors, comme la personne implique la nature par la nature, la personne implique le bien commun. Mais la personne comme telle est au-dessus du bien commun.
Mon père, vous connaissez très bien ce qu'Aristote dit au sujet du bien commun, comme étant plus divin que le bien personnel.
Oui.
Comment comprendre?
Mais ça, il faut le comprendre comme justement le bien personnel, c'est le bien individuel. Alors le bien commun est au-delà du bien de l'individu, mais le bien commun n'est pas au-delà du bien personnel. La vision béatifique, c'est un bien personnel, c'est pas un bien commun. Mais au fond, on est obligé de distinguer ce que Aristote là n'a pas distingué avec suffisamment de précision, mais de distinguer entre le bien individuel et le bien personnel. Et nous en faisons la distinction couramment. Votre stylo, il appartient à un bien individuel, pas personnel. Tandis qu'au contraire, votre intelligence, c'est un bien personnel. Il est individuel, mais il est personnel. Il est deux. Alors, la question, c'est quoi que vous aviez posé exactement?
On voyait aussi qu'on est rattaché à la, à la communauté par le corps, ainsi que par la prudence.
Oui.
Et au dernier cours, vous aviez dit qu'on s'ouvrait à la communauté par l'aspect volontaire. Vous avez parlé du rapport entre bien commun et bien volontaire. Qu'on passait du bien commun au bien volontaire.
Bien personnel.
Voilà. Le frère voudrait savoir comment est-ce qu'on peut situer ces trois approches dans l'analyse de la personne humaine.
Dans l'analyse de la personne humaine. La personne humaine, elle se tient du côté personnel. Et non pas du côté nature. Du côté nature, tout ce qui est du point de vue de la nature est commun. Ce qui est personnel, alors, est au-delà du point de vue naturel. Alors, si je dis individuel, je prends, il est individuel, il n'est pas toujours personnel. Parce que l'individu, c'est le côté de la matière, et la personne, c'est du côté de l'esprit. Alors, il peut se faire qu'il y a un bien qui soit du côté de l'esprit et qui n'est pas du côté du corps. Et puis, la nature, c'est ce qui est commun entre vous et moi. J'utilisais une montre. Une montre, est-ce que c'est un bien personnel? Est-ce que c'est un bien personnel? Oui, c'est un bien naturel. C'est-à-dire, tout dépend de l'usage que vous en faites. Et c'est vrai. Tout dépend de l'usage que vous en faites. Vous pouvez faire l'usage de la montre pour, par exemple, quand je me sers de ma montre pour la longueur du cours. Est-ce que c'est personnel ou naturel? C'est naturel. Naturel, c'est que le cours d'une heure, c'est pas personnel que le cours. La preuve, c'est que de temps en temps, on déborde. Ou de temps en temps, on est inférieur. Alors, au fond, il y a beaucoup de réalités dans notre vie qui sont à la fois individuelles et personnelles. Et qui sont naturelles et personnelles. L'usage de ma montre pour la longueur du cours, c'est naturel. Parce que la longueur du cours, c'est naturel. L'usage de la montre pour mesurer le temps qu'il faut pour notre temps. Je veux devenir très, très individuel et en même temps très personnel. Mais normalement, c'est naturel. Oui, c'est la fameuse distinction nature et personne auquel je crois qu'on n'a pas assez réfléchi. Alors, n'ayant pas assez réfléchi, la grande révolution qui s'est faite à partir du XIVe siècle, c'est que le point de vue personnel est passé avant la nature. Alors qu'avant, au fond, la nature passait avant. Il y a eu là un grand drame de la pensée. Et c'est le drame de la pensée européenne. Le drame de la pensée européenne, c'est que la personne est passée avant la nature. Et la nature a disparu. Comment voulez-vous pouvoir unir les gens si la nature disparaît ? On vit un drame hein, en Europe. C'est sûr qu'on vit un drame en Europe. On vit un drame en Europe parce qu'on a perdu le sens de sa finalité. Tout homme qui perd le sens de la finalité est plongé dans un drame. Et ce drame, c'est le XIVe siècle. Ce drame n'est ni français, ni espagnol, ni italien. Il est tout ça. Sans être particulièrement chaque pays. Mais il est analogue à la France, à l'Italie, à l'Espagne. Et ce drame, c'est que, au fond, la personne est passée devant la nature. Alors, il faut comprendre pour un pays dans son évolution. Quand le développement de la personne se fait avec intensité sans que la nature suive, ou bien le développement de la nature sans la personne. Mais il y a un développement politique très différent. Et c'est intéressant à voir ça. Bon. Alors, dernier point, il y a encore une question.
Il y a encore une question. Père, lors du dernier cours, vous avez dit que le bien commun conduit au bien personnel. Je voudrais savoir si l'amour de la contemplation n'est pas d'abord personnel.
Oui. L'amour de la contemplation est personnel. Et l'amour de la contemplation est premier.
Enfin, le frère pose la question, parce que enfin, si j'ai bonne mémoire, vous disiez que pour une communauté, par exemple la nôtre, notre bien commun premier, c'était Dieu.
Oui.
C'est la contemplation.
Oui.
Et voilà, c'est pour ça que le frère pose la question de l'ordre entre cette contemplation au niveau personnel et son exercice au niveau communautaire.
ce bien de la contemplation est personnel. C'est la personne qui atteint sa fin, indépendamment de la nature, même s'il faut que la pauvre nature crie un peu, on veut atteindre sa fin, on veut dépasser la fin de la nature, et on la dépasse. Donc, il y a quelque chose de premier dans la finalité de la finalité propre de la personne. La finalité propre de la personne l'emporte sur la finalité de la nature. Pour l'homme. C'est sûr. Non. La finalité personnelle de la contemplation dépasse la finalité de la nature. Et en tant qu'elle dépasse la finalité de la nature, elle donne un droit à l'homme, le droit à la contemplation. L'homme qui choisit la contemplation alors devient quasi inutile pour le bien commun. A-t-il le droit de choisir le bien de la solitude, de la contemplation? Oui, parce que sa personne finalise la nature. Ma fin n'est pas au niveau de la nature, elle est au niveau de la personne. Il y a une fin au niveau de la nature, c'est engendrer. Engendrer est la fin de la nature. La fin de la nature personnelle, c'est la contemplation. Alors, il peut y avoir une lutte entre les deux. Il peut y avoir une difficulté de dépassement de la nature. Et c'est très vrai, ça. Le dépassement de la nature est toujours une chose héroïque. Parce que la nature est... Elle est en moi. Mais il y a des finalités qui dépassent la nature. Ça va ?
Merci, Père.
Donc, je reprends. La personne. Première chose qu'on regarde dans la personne, la subsistance dans l'être. Ça montre tout de suite que la personne ne peut se comprendre qu'au niveau métaphysique. La subsistance dans l'être. Et c'est ce que j'appelle l'autonomie dans l'être. Foncièrement, c'est ça qui fait que mon existence est différente de l'existence du chat, du chien, de l'animal. J'ai le droit de tuer un animal. Et dans la mesure où on ne veut plus parler de l'âme, on dira, j'ai le droit de tuer l'homme qui m'agace. Il n'y aura plus cette impossibilité de tuer l'homme parce qu'il existe par lui-même. Et donc, si je le tue, je vais contre quelque chose de fondamental qui est en lui, c'est d'exister par soi, subsister. Revenez toujours à cette autonomie. Parce que cette autonomie, je crois que vous pouvez tous comprendre que cette autonomie se comprend au niveau métaphysique. Subsister par soi. cette autonomie subsistait par soi, de fait, implique l'intelligence. Vous voyez, je remonte, je vois, qu'est-ce qu'elle implique ? Elle implique l'intelligence. S'il n'y avait pas l'intelligence, il n'y aurait pas cette autonomie par soi. Donc, c'est impliqué dedans. L'intelligence, non pas dans son exercice de connaître, mais dans cette réalité profonde que l'intelligence vient m'éclairer sur la noblesse de mon être, sur l'autonomie de mon être. C'est que grâce à mon intelligence, je peux découvrir que je suis autonome dans mon être. Je dépends de mes parents, c'est sûr, pour toute l'éducation première, mais mes parents n'ont pas le droit de me tuer. Vous voyez, cette fameuse loi qui a passé il n'y a pas très longtemps, que la mère avait le droit, par exemple, d'arrêter la grossesse, donc de tuer. En disant que la mère a un droit. Voilà. Vous supprimez l'autonomie foncière de l'homme. Est-ce que l'homme n'a pas, dès le point de départ, le point de vue de sa conception, une autonomie ? Oui, c'est une réalité que nous touchons. Pourquoi on aboutit à cette erreur fondamentale qui est un retour aux anciens où la mère ou le père avait le droit de supprimer l'enfant. Alors il y avait une question d'âge différente, on avait le droit de supprimer l'enfant. Parce qu'au fond, l'enfant était relatif entièrement à ses parents. Alors nous disons non, l'enfant n'est pas relatif totalement à ses parents, parce que l'enfant a en lui-même une autonomie d'être. Et cette autonomie d'être n'est pas psychologique. Elle est métaphysique. Si elle était psychologique, on dirait ça dépend. Si vous avez une mère très intelligente, vous dépendez d'elle. Si vous avez une mère qui n'est pas intelligente, vous ne dépendez pas d'elle. Or, ce n'est pas la question de l'intelligence de la mère, c'est la question de fait, de l'existence de l'embryon. Vous voyez, on touche tous les problèmes d'aujourd'hui, hein, dans ça. Et en réfléchissant là-dessus, on voit tout de suite, une mère n'a pas le droit de tuer l'enfant, même tout au début, elle a le droit de le faire pendant 8 jours. Alors, pourquoi font-elles pas le droit de le faire ? Pourquoi tous, du moins j'espère, on a ce sentiment de dire, mais il n'y a pas le droit de faire ça. Cette loi est passée. Donc, la mère n'est pas punie si elle tue l'enfant au début. Elle a le droit. Alors, est-ce qu'on a, dans ces conditions-là, on n'a plus d'autonomie dans son être ? C'est pour ça que c'est très grave. C'est l'humanité elle-même qui décide que le tout petit enfant dans sa mère n'a pas d'autonomie. La mère remplace Dieu. Je dis, ces questions-là sont très, très actuelles. Et on doit essayer de les saisir parce qu'on sera affronté à ces questions-là. C'est des questions qui se posent maintenant concrètement. Pas métaphysiquement, mais métaphysiquement parce que justement, on considère que la mère a un droit sur le fœtus. Il est totalement dépendant de sa mère. Donc vous supprimez l'autonomie substantielle du petit être. C'est pas une question d'âge. La métaphysique est au-dessus de l'âge, indépendamment. C'est pas une question d'âge. Mais si c'est d'ordre psychologique, la question d'âge joue. Mais n'intervient pas au point de vue métaphysique. Le point de vue métaphysique, c'est l'être. Ce n'est pas le devenir, c'est l'être. Il faut voir l'acuité de ces problèmes, vous voyez. On vit de ça aujourd'hui. Et on doit essayer de comprendre ce qu'il y a de vrai et ce qu'il y a de faux dans tout ça. Autonomie dans l'ordre de l'être. Subsister. Est-ce que ma mère avait le droit de considérer qu'elle avait un droit pendant 8 jours de la formation du petit. Et pendant 8 jours, elle a le droit. Mais on fait intervenir des questions de temps dans l'ordre métaphysique. Donc, il faut que nous ayons, nous, en tant qu'apôtres, en tant que représentants du Christ, on touche à quelque chose de tout à fait fondamental aujourd'hui. Pas dans tous les pays, heureusement. Alors, aux États-Unis, on est loin d'accepter cette loi-là. Et c'est là où la France accepte. Elle n'est pas la seule, hein. D'autres pays qui font partie de l'Europe affirment ça aussi. Et y a-t-il une autonomie fondamentale en nous? Alors, cette autonomie fondamentale, je crois, touche l'être, touche notre être. Si vous dites que c'est psychologique, que ça dépend de la vie et ça ne dépend pas du point de vue métaphysique, alors vous reconnaissez que le point de vue métaphysique commence à un certain âge. Oui, c'est la question de l'être et le devenir. Les parents ont un certain droit sur le devenir. Et c'est la question tragique du reste de la malformation de l'enfant. C'est dans l'ordre du devenir. Est-ce que la mère a le droit, étant donné la malformation du fœtus, de supprimer l'enfant? Un vrai médecin chrétien, gynécologue chrétien, doit se battre pour pour montrer qu'on n'a pas le droit de supprimer le tout petit, même s'il y a une malformation. Parce que l'être, son être, sa subsistance, n'appartient pas aux parents. Oui. Là, vous touchez le point de vue très concret. Le tout petit enfant n'appartient pas à ses parents. Nous, nous disons qu'il appartient à Dieu. Bon, ceux qui n'acceptent pas Dieu, alors, ils acceptent la dépendance de la mère. C'est très vrai. Si je n'accepte pas Dieu, c'est beaucoup plus difficile. Mais, même n'acceptant pas Dieu, le respect d'un autre être, autre que moi, est fondamental. Parce que je ne suis pas le maître de l'être. Ma subsistance, elle existe, mais elle n'est pas totale. Et à regard de l'autre, c'est la même chose. Je respecte son existence. Même s'il est tout petit, même s'il est en dépendance totale vis-à-vis de moi, je respecte. Il a en lui quelque chose qui me dépasse. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.